Il est 7h.
J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire.
Ça, c'était Emmanuel Macron quand il a annoncé le confinement le 16 mars dernier. L'hypothèse est à nouveau sur la table. Le chef de l'État réunit deux conseils de défense restreints aujourd'hui et demain. Plusieurs scénarios sont à l'étude. Les chiffres de l'épidémie donnent le vertige. Plus de 26 000 nouveaux cas ont été enregistrés hier avec 357 nouvelles admissions en réanimation ces dernières 24 heures. Et c'est une information Europe 1. Le nombre d'amendes pour non-respect du couvre-feu explose. Les verbalisations ont été multiplié par deux, illustrations dans ce journal. Les élections américaines approchent, on est à une semaine tout pile. Les deux candidats Joe Biden et Donald Trump étaient hier en Pennsylvanie. Et puis il y a du football ce soir, deuxième journée de Ligue des Champions. Marseille affronte Manchester City. Victoire impérative pour les Phocéens qui ont perdu la semaine dernière face aux Grecs de l'Olympiakos.
Juste après ce journal, Bruxelles devrait donner son accord à la fusion Peugeot-Fiat-Chrysler. Une bonne nouvelle dans une période troublée. L'éclairage éco de Daniel Fortin. Le regard international de Vincent Hervouet. Et puis, il faut accompagner les jeunes joueurs de foot dans leurs rêves et dans leurs déceptions. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin. Nous retrouverons enfin Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
On n'a plus le temps d'attendre, alertent les médecins. L'épidémie de coronavirus progresse très rapidement. Plus de 2700 malades sont désormais hospitalisés en réanimation. 357 nouveaux cas ont été admis ces dernières 24 heures, un chiffre qui n'avait plus été atteint depuis avril. Le respect des gestes barrières reste primordial, le respect des restrictions aussi. Europe 1 vous révèle ce matin que le nombre d'amendes pour non-respect du couvre-feu explose. Bonjour Guillaume Bié.
Bonjour.
Les contrôles et les verbalisations ont été multipliées par deux.
Oui, c'est une hausse spectaculaire, presque aussi rapide que la propagation du virus. D'après nos informations, le week-end dernier, les forces de l'ordre ont contrôlé plus de 21 000 personnes durant la nuit de samedi à dimanche. C'est deux fois plus que le week-end précédent. C'est vrai qu'entre-temps, nous sommes passés à 54 départements sous couvre-feu. Et lors de ces contrôles, près de 3 000 personnes ont été verbalisées, auxquelles il faut ajouter un millier de contrevenants qui ne portaient pas de masque samedi dans les secteurs où c'est pourtant obligatoire. A l'inverse, les restaurants et les commerces respectent les mesures. Sur les 19 500 contrôles menés la semaine dernière, seuls 430 établissements ont été épinglés selon nos informations et 11 ont été frappés d'une fermeture administrative.
Pour freiner l'épidémie, de nouvelles mesures seront prises dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui et demain deux conseils de défense.
Jean Castex a aussi prévu de rencontrer cet après-midi les partenaires sociaux et les responsables politiques. Plusieurs options sont envisagées. Le couvre-feu pourrait être avancé à 19h. On parle également d'un confinement le week-end ou uniquement pour les territoires où le virus circule le plus. Victor Delande, bonjour.
Bonjour.
Ce confinement sur mesure est défendu par deux médecins du CHU de Lille.
Oui, on n'a plus le temps d'attendre selon eux, mais on a encore la possibilité de choisir notre type de confinement. En mars-avril, l'impact sur l'économie a été bien trop important, d'où l'idée d'un confinement éco-compatible. Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, en dresse les contours.
On peut tout à fait imaginer de maintenir un certain nombre d'activités, l'accès aux écoles, aux collèges et aux lycées. Il faut maintenir les transports en commun, mais alors il faut probablement changer les horaires de travail. Comme ça, on pourra maintenir des entreprises ouvertes, celles qu'ils peuvent, à qui on demandera d'étendre au maximum le télétravail. Enfin, pour tout ce qui est commerce, l'idée, c'est de maintenir que les commerces de produits essentiels.
Ajoutez à cela l'annulation de toutes les réunions privées et publiques et une attestation de sortie du domicile systématique. Des restrictions qu'il faudrait territorialiser. Pas besoin, en effet, de confiner une région où le virus circule peu. Avec de telles mesures, ces médecins estiment qu'en 3 à 4 semaines, on pourrait reprendre le contrôle sur l'épidémie, c'est-à-dire revenir à 4000 ou 5000 contaminations par jour et sauver ainsi les fêtes de fin d'année.
Et on entend un reconfinement au moins partiel paraît de plus en plus probable. Les familles inquiètes espèrent que le confinement sera moins dur qu'au printemps dernier.
À l'image de l'Irlande où les écoles restent ouvertes et les parents télétravaillent, ce serait le scénario le moins contraignant pour cette famille située près de Toulouse.
Pour pouvoir télétravailler avec les enfants, c'est pas possible.
Angélique l'assure, si le pays se reconfine, il faut que l'école reste ouverte pour accueillir ces deux petits de 4 et 5 ans.
Je pense que c'est beaucoup mieux pour les enfants.
C'est mieux aussi que de les voir courir ou jouer dans la maison pendant une réunion à distance avec son patron.
Si je suis amenée à travailler à la maison, je pourrais être aussi amenée à aller chercher mes enfants à l'école. On sait qu'on pourra aussi se relayer, puisque pour l'instant, c'est surtout le papa qui va les chercher.
Le papa, c'est Romain, serveur dans un restaurant toulousain. Depuis le couvre-feu, fin de service à 21h. Pour le moment, pour son salaire, pas de panique, il sera au chômage partiel. Mais le confinement de l'automne ne peut pas ressembler à celui du printemps.
On est déjà passé par là. Non, ça n'a pas été quelque chose de compliqué. Il faisait beau, tout ça. Là, ça risque d'être quelque chose d'un peu plus triste, d'un peu plus terne. Qu'on se serre la ceinture. De toute façon, on est bien obligé. Il faut certainement passer par là. C'est pas évident. On voit pas l'avenir du bon côté, quoi.
Se reconfiner signifierait pour eux un nouveau sacrifice pour espérer fêter Noël en famille.
Un reportage de Jean-Gabriel Bourgeois.
Il y a un côté très angoissant quand même dans les informations ce matin. L'épidémie hors de contrôle, ces nouvelles restrictions annoncées, il faudrait garder l'objectif en vue, en ligne de mire. Sauver Noël, c'est le maître mot de plusieurs pays européens qui ont adopté des mesures strictes pour tenter de contenir cette deuxième vague qui touche, il faut le dire, tout le continent.
Le confinement partiel instauré en Slovénie va être durci dès aujourd'hui et le contrôle aux frontières renforcé. En Belgique, les vacances de la Toussaint ont été prolongées, restrictions aussi en Italie où les bars et les restaurants ferment désormais à 18h, une décision pas forcément bien accueillie. De violents incidents ont éclaté hier soir à Milan et Turin, où la police anti-émeute a été déployée. Le Premier ministre italien doit présenter aujourd'hui des mesures de soutien au secteur d'activité et aux professions les plus touchées par les mesures de restriction.
La crise sanitaire qui plombe aussi, vous le savez, l'économie en France. L'Assemblée nationale a voté cette nuit le plan de relance pour permettre un rebond face à la récession.
L'adoption définitive du texte est espérée au plus tard le 18 décembre. Sur les 100 milliards d'euros annoncés, le plan de relance doit permettre de débloquer 22 milliards de crédits dès l'année prochaine autour de trois piliers, l'écologie, la compétitivité et la cohésion des territoires.
Europe 1, il est 7h07. La menace terroriste est plus élevée que jamais en France. Les appels à la haine se multiplient après le discours d'Emmanuel Macron en faveur de la liberté d'expression.
Ouais, le chef de l'État avait également réaffirmé que la France ne renoncerait pas aux caricatures après l'assassinat du professeur d'histoire géo Samuel Paty. Des propos fustigés par le président turc Erdogan qui invitait il y a deux jours Emmanuel Macron a allé se faire soigner. Hier, le président turc a appelé au boycott des produits français. Jean-Sébastien Soildani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Dans le quartier d'origine d'Erdogan, tout le monde n'est pas d'accord.
Non, à commencer par les commerçants. Il n'y a qu'à regarder les rayons des épiceries ce matin. Les yaourts, les fromages de marque française sont bien là. Ceux d'une grande coopérative laitière, notamment très populaire. Ici, un épicier reconnaît que c'est dur de s'en passer. Alors sur ces étalages, Ismail applique la loi du marché.
La vache qui rit, elle reste en rayon. Si les clients veulent l'acheter, ils peuvent. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je suis commerçant, je fais mon métier. Je n'aime pas le Coca-Cola, mais je le mets dans mon rayon. C'est le client qui décide.
Shimal commence ses courses au petit matin. Elle est prête à se priver de certains produits, mais sans trop savoir lesquels.
De manière générale, on a l'impression qu'il y a de l'hostilité envers les Turcs. Notre président essaye d'afficher son désaccord. C'est un petit pas, mais je soutiens la démarche. Bien sûr que je vais le faire. Il y a des marques bien particulières. Une liste a été dressée et je vais me renseigner.
Et puis il y a ceux pour qui la décision de boycotter est plus difficile, ce sont les pharmaciens. L'un d'eux est resté flou sur sa volonté de retirer les médicaments issus de labos français.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europe 1.
J-7 avant l'élection présidentielle américaine. C'est donc la dernière ligne droite pour Joe Biden et Donald Trump.
Les deux candidats en campagne étaient tous les deux hier en Pennsylvanie, un état décisif pour l'élection. Joe Biden pour une visite surprise. Donald Trump, lui, a tenu pas moins de 3 meetings dans la journée et il compte maintenir ce rythme effréné jusqu'à mardi prochain. Notre correspondant Xavier Yvon a assisté au premier de ces rassemblements destinés à mobiliser la base électorale du président.
Donald Trump monte sur scène, ses fans à casquette rouge se serrent les uns contre les autres, heureux de se compter si nombreux, comme Myriam, une franco-américaine coiffée d'un chapeau de cow-boy.
Je suis venue en fait pour voir si vraiment il y avait du monde, etc. Et oui, je pense qu'il a un soutien énorme. Et je pense que les sondages sont faux.
Les sondages qui le donnent perdant, Donald Trump les balaye aussi. Très en forme, il promet à la foule de refaire le coup de 2016 et il rejoue la soirée électorale victorieuse d'il y a 4 ans. Probablement le plus grand moment de télévision de l'histoire. Exactement ce que Dana voulait entendre. Avec tous ces gens qui le détestent, c'est décourageant, dit-elle. Et là, ça vous donne un shoot d'énergie, ça recharge vos batteries. Cette retraitée venue du New Jersey voisin ne sait même plus combien de fois elle a vu le show Donald Trump. Je ne peux pas imaginer ma vie sans ces meetings, dit-elle. Je ne peux pas me dire que c'est le dernier. Dernier tour de piste ou dernier tour de force, Don et John sortent rassurés. Avant le meeting, on espérait qu'il gagne. Maintenant, on sait qu'il va gagner. Alors que la foule est encore en train de se disperser, l'avion présidentiel passe juste au-dessus. Donald Trump est déjà reparti. Prochain meeting dans une heure. Allentown, Xavier Yvon, Europe 1.
Et notez que le Sénat a confirmé cette nuit la juge Barrett à la Cour suprême des États-Unis. Cette fervente catholique de 48 ans, mère de 7 enfants et opposée à l'avortement, a prêté serment dans la foulée à la Maison-Blanche. Donald Trump a loué ses qualifications impeccables et sa générosité dans la foi.
Et puis en football, deuxième journée de Ligue des Champions ce soir.
L'OM reçoit Manchester City à 21h. Le club phocéen espère se rattraper après une défaite contre l'Olympiakos la semaine dernière. Mais ça s'annonce compliqué, Stéphane Frangy.
Peur sur la ville, les citizens sont précédés par leur réputation et les supporters comme Samir s'attendent au pire.
Une grosse peur même, ça va être dur, pour City ça va être compliqué. L'entraîneur Pep Guardiola, Riyad Mahrez, Foden, Agüero, c'est vraiment de grands joueurs et ils ont une équipe pour même pour gagner la Ligue des Champions.
Mais c'est également ce qui fait l'ADN d'un supporter comme Michel, croire en la victoire contre toute attente.
Bien, avec une victoire à la clé.
Pour qui ?
Pour l'OM. Non, après c'est paradoxal, on va voir, on est capable du meilleur et du pire. City n'est pas encore dans une forme étincelante, faut espérer une victoire.
Hein. Et plus terre à terre, le coach André Villas-Boas a bien tenté d'analyser les vidéos des matchs de Manchester City sans y trouver vraiment l'inspiration.
Oui, c'est une équipe exceptionnelle, avec pas beaucoup de fautes, pas beaucoup de choses à exploiter. Ils ont beaucoup d'expérience dans la Ligue des Champions, c'est une des meilleures équipes du monde et ça va être dur, on va voir.
Soirée cauchemar en perspective pour l'arrière-garde marseillaise, le défenseur Douillet de Salet-Atsar l'a annoncé, il faudra être concentré et agressif. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Et soirée foot dès 20h ce soir autour de Lionel Rousseau sur Europe 1, la Ligue des Champions qui se poursuivra demain. Le PSG ira à Istanbul, Rennes sera opposé à Séville.
Merci beaucoup Émilie Dez, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.